Alors bonjour à tous, et j'aimerais prendre comme un des passages pour ma prédication ce matin, Ésaïe 55. C'est dans ce chapitre, Christine, où se trouve le verset qui dit « Quand ma parole vient sur la terre, tombe comme la rosée sur la terre, et bien ne remonte pas vers le ciel sans avoir apporté du fruit, sans avoir apporté la bénédiction. » C'est dans Ésaïe 55. Donc ce sera un des passages. Et le titre de mon message, eh bien, c'est « Que cherches-tu » ou « Que cherchez-vous » ou « Qui cherchez-vous » ? Alors, ce passage commence en disant « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux ». Il ne s'agit pas du zoo où il y a des animaux, n'est-ce pas ? Mais c'est vers l'eau, vers là où il y a de l'eau. « Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Donc ça, c'est le début du chapitre. Et si vous descendez un tout petit peu plus bas, vous verrez au verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve ». Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité, c'est-à-dire l'homme de péché, ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. » Donc voyez ici, c'est surtout sur le verset 6, et je reprendrai d'autres passages qu'on lira tout à l'heure. Surtout le verset 6 qui m'interpelle, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Et c'est le mot « chercher » qui a été prononcé à plusieurs reprises déjà dans ce culte ce matin, n'est-ce pas, de chercher l'Éternel, chercher Dieu. Et je me demande si c'est une attitude de cœur que nous avons, ou si nous avons l'attitude qui consiste à dire « Je l'ai trouvé, je suis tranquille ». J'ai déjà trouvé la croix, j'ai même ma tante qui est juste à côté de la croix, comme a dit Emmanuel tout à l'heure, à côté de la porte d'entrée. J'ai déjà trouvé, n'est-ce pas? Et quand on a trouvé quelque chose, eh bien on ne le cherche plus, c'est très logique. Ou est-ce que notre cœur ce matin est dans une attitude de recherche de Dieu? Est-ce que en nous il y a cette force, cette puissance qui nous pousse à chercher? N'est-ce pas? Si vous avez soif, c'est tout simple comme illustration. On n'a pas besoin d'aller loin pour comprendre ce que ça veut dire chercher. Si vous avez soif, eh bien, il y a une force en vous, il y a un manque en vous qui vous pousse à chercher un moyen d'avoir satisfaction de votre soif. N'est-ce pas? Vous allez chercher de l'eau, vous allez chercher à boire par tous les moyens. Si vous avez l'occasion d'avoir une grosse somme d'argent, eh bien, vous allez chercher, vous allez faire, même si vous êtes fatigué, vous allez faire des efforts, des démarches administratives, des choses compliquées pour pouvoir avoir droit à cette somme d'argent. Si vous avez perdu quelque chose de très précieux, eh bien, même si vous avez horreur de chercher dans votre maison partout ou dans votre bureau partout, eh bien, vous allez commencer à le faire parce que vous avez une motivation très forte, n'est-ce pas, à trouver ce qui était précieux pour vous. Et Jill, dans sa prière tout à l'heure, a parlé de cet homme qui a cherché à tout prix ce trésor dans le champ, n'est-ce pas, qui a tout vendu pour acquérir un champ parce qu'il savait qu'il y avait un trésor. Et le royaume de Dieu est ainsi, n'est-ce pas, et la recherche fait partie inhérente du royaume de Dieu. Il y a cette recherche, et comme il a été dit, Dieu a cherché l'homme. Je suis venu, Jésus a dit, cherchez et sauvez ce qui était perdu. Mais si c'est le cœur de Dieu, c'est aussi le cœur de l'homme. Et ça doit être dans le cœur de l'homme, cette attitude de recherche. Pas cette indifférence. Malheureusement, on voit si souvent de l'indifférence. Et bien sûr, on ne va pas le dire clairement. On ne va pas dire, voilà, je suis indifférent aux choses de Dieu. Mais ça se traduit par ce manque de recherche de Dieu. Cette recherche de connaître plus, n'est-ce pas, d'essayer de le trouver davantage. Si vous lisez Le Cantique des Cantiques, eh bien là, vous voyez quelqu'un qui a cherché, n'est-ce pas? Il y a un des chapitres de Cantique des Cantiques où le bien-aimé a frappé à la porte et la bien-aimée a mis du temps à répondre, n'est-ce pas? Et donc, le bien-aimé est parti. Et elle est devenue comme folle, n'est-ce pas? Parce qu'il était parti. Elle a pris conscience qu'elle avait trop traîné, n'est-ce pas? Et elle s'est mise à chercher dans la ville désespérément après le bien-aimé. Chercher désespérément. Elle est allée interroger les gens. Elle est allée interroger les gardes pour demander « Mais est-ce que vous avez vu mon bien-aimé ?» Et bien sûr, les gens l'ont pris pour quelqu'un de fou. Eh bien, c'est ça, quand on a vraiment le cœur qui recherche, n'est-ce pas? On va tout faire pour trouver. Si on cherche vraiment à voir le Saint-Esprit, si on cherche vraiment à voir la présence de Dieu dans nos vies, si on cherche vraiment à voir la victoire dans nos vies, eh bien, il y a quelque chose de désespéré qui doit faire dire même aux autres, mais il est fou, elle est folle. Il y a quelque chose de désespéré chez cette personne. Mais ce sont ces gens-là qui trouvent, parce qu'ils ont cherché de tout leur cœur, parce qu'ils ont cherché ardemment. Et là, au verset 6 du chapitre 55, il est dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Ce qui suppose qu'il y a un moment où on ne pourra pas le faire. Il y a un moment où Dieu se trouve prêt, et c'est pendant ce temps-là où il faut le chercher. C'est quand sa parole commence à toucher nos cœurs, quand on entend des choses qui rentrent profondément en nous, qui nous interpellent, eh bien, à ce moment-là, on sait que Dieu est prêt. Comment on sait que Dieu est prêt? Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui nous parle de sa parole, parce qu'il y a quelque chose qui nous touche, qui nous interpelle, qui nous peut-être met en place. Et c'est ce temps-là, c'est ce moment-là où il faut répondre, où il faut chercher Dieu. Beaucoup de gens remettent à plus tard parce qu'ils pensent qu'ils auront le temps plus tard de régler ces choses-là. Ou peut-être ils disent « j'aurai d'autres occasions, j'ai une occasion aujourd'hui, donc j'aurai d'autres occasions ». Mais Dieu dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et c'est cette attitude de recherche de Dieu, de Jésus-Christ, que l'on doit entamer, que l'on doit commencer dès que Dieu nous appelle. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Et j'aimerais qu'on tourne dans 1 Timothée chapitre 6. Dans 1 Timothée chapitre 6, où l'apôtre Paul enseigne Timothée, n'est-ce pas, qui est un homme de Dieu, qui est quelqu'un qui est déjà au Seigneur. Et dans 1 Timothée chapitre 6 au verset 11, il dit, pour toi, homme de Dieu, il s'adresse à quelqu'un qui s'est déjà engagé avec Dieu. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche, on voit le terme recherche, la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Bien sûr, c'est quoi fuir ces choses? On est obligé de lire ce qui précède pour comprendre. Eh bien, les choses d'avant, les versets d'avant, le verset 9 disent « Mais ceux qui veulent s'enrichir, tomber dans la tentation, dans le piège et beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Il est question là de ceux qui cherchent à s'enrichir. Et vous avez vu que dans le chapitre 55 d'Ésaïe, il était question de venir à Dieu, à la source d'eau vive, merci beaucoup, à venir vers la source d'eau vive, vers Jésus-Christ, sans argent, sans rien payer. C'est pas l'argent, c'est pas les choses pour lesquelles on se démène, c'est pas forcément l'argent qui nous intéresse d'ailleurs. Ça peut être notre travail, ça peut être notre santé, notre corps, notre physique, le faire du sport pour garder, et ça peut devenir tout ça, tout un tas de choses qui deviennent les aspirations qui motivent notre recherche. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas ça qu'on doit chercher. Pourquoi faire tout ça alors que ça ne nourrit pas profondément? Et ce que dit Paul à Timothée, c'est pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. L'appel est très clair de de fuir. Et pourquoi cet appel est très clair? Parce qu'il dit quelque chose juste avant, dans le verset 10, 1 Timothée 6, « L'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés. » C'est un terme que l'on utilise, qu'on ne voit pas souvent, qu'on a banni, n'est-ce pas, de notre langage, parce qu'on a très peur de ce qui est appelé la possession, n'est-ce pas? Mais ici, ce n'est pas question de gens qui ont l'amour de l'argent, qui possèdent l'amour de l'argent. C'est des gens dont l'amour de l'argent les possède. C'est-à-dire ils sont pris par une puissance qui les a saisis, n'est-ce pas? Et qui les tient liés, qui les tient captifs. Et peut-être ce matin, vous êtes lié par quelque chose, par une puissance. Et ce n'est pas vous qui avez ce problème, c'est cette puissance qui vous contrôle, qui vous tient lié. Et peut-être vous avez besoin de délivrance. Et Jésus-Christ, qui est la source d'eau vive, eh bien, vous donne ce message ce matin. Venez aux eaux, venez à l'eau vive pour pouvoir vous désaltérer, pour pouvoir connaître ce qui va vous libérer. Jésus-Christ, encore une fois, a dit que si vous connaîtrez, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, et c'était lui-même la vérité. Mais il est important de fuir ces choses, comme il est dit ici, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Ça ne veut pas dire qu'il faut rechercher d'avoir ces choses. Vous avez vu qu'il ne s'est pas écrit « et recherche à avoir la justice ». Avoir la piété, avoir de la foi, avoir de la charité. Quelquefois on prie comme les disciples, « Seigneur, augmente-nous notre foi. » Mais je ne crois pas que c'est ça dont il est question. Rends-moi plus juste, rends-moi plus doux, rends-moi plus patient. Je ne crois pas que c'est ça. Parce que je pense qu'on peut acquérir la justice par une bonne éducation et pas par Dieu. Je pense qu'on peut acquérir la douceur par une bonne éducation. Je crois qu'on peut acquérir la patience par l'éducation. Je crois qu'on peut acquérir la charité par éducation. Mais ici, ce n'est pas ça dont il est question. C'est de rechercher cela, c'est-à-dire que non seulement on puisse avoir la justice, la douceur, la foi, la patience, la charité, mais qu'on puisse être pris par ces forces-là. Qu'on puisse être pris par l'amour, qu'on puisse être pris et qu'on devienne la possession de l'amour, la propriété, n'est-ce pas? Qu'on puisse appartenir à la foi, appartenir à la douceur, appartenir à la charité, appartenir à la justice, appartenir à la piété. Et c'est seulement quand il y a cet échange réciproque où on peut dire « oui, je sais » que j'ai reçu la justice de Dieu. Dieu m'a donné la foi, Dieu m'a donné la charité, Dieu m'a donné, mais aussi je me suis donné à l'amour, je me suis donné à la foi, je me suis donné à la douceur. Est-ce que ce matin, vous voulez rechercher, parce que c'est ça que ça veut dire, rechercher le Seigneur, rechercher la foi, la justice, etc. Ça veut dire se donner entièrement en disant, oui, je le veux. Je veux que nous ne fassions plus que un. Je veux que nous puissions, qu'il y ait un échange parfait au point que nous soyons plus que un. Vous savez que le message de l'Évangile, ce n'est pas simplement recevoir la justice, c'est devenir justice. Vous lisez ça, ne tournez pas, mais c'est la fin du chapitre 5 de 2 Corinthiens. Il est dit, « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu, que nous devenions justice. » C'est pas recevoir la justice. Oh, il y a des hommes sur la terre, il y a des gens qui vont être élus aujourd'hui, qui sont justes, connaissent pas Dieu, mais ils ont une justice. J'ai pas dit qu'il y en avait beaucoup, j'ai dit qu'il y en a, qui sont justes. Il y a des gens qui ont la foi. Si vous interrogez les gens dans la rue et qu'ils ont la possibilité de répondre en privé, ils vont dire « oui, 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 j'ai la foi ». Il y a des gens qui sont doux, il y a des gens qui sont pleins de charité, il y a des organismes humanitaires, il y a de plus en plus de gens qui ont de la charité. Les Français sont très charitables, s'ils voient la souffrance, s'ils ont le cœur qui est sensible et qui répond. Les Français sont très généreux vis-à-vis des organismes humanitaires. Mais ce n'est pas ça dont il est question. La Bible ne nous incite pas, ça ce sont les associations qui font ça. Mais l'Évangile n'est pas le même travail qu'une association. Une association ne peut pas calquer le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile et l'Évangile lui-même, c'est une puissance. C'est une puissance et une rencontre où nous devenons justice, où nous devenons la foi, où nous devenons la charité, où nous devenons la douceur, la patience. Pourquoi nous devenons ces choses-là? Parce que Jésus a dit, ou c'est l'apôtre Jean qui a dit, vous lirez ça dans 1 Jean, « Comme il a marché, nous aussi nous devons marcher. » Vous avez entendu ça, « Comme il a marché, nous aussi nous devons marcher sur la terre. » C'est-à-dire de la même manière que Jésus a marché sur la terre. Nous devons marcher aussi sur la terre. Marcher aussi sur la terre. Et nous devons être le modèle de Christ pour que les gens ne disent pas « Oh, il est patient !» mais pour qu'ils puissent goûter en nous la patience, la douceur, la charité. Pour qu'ils puissent saisir de nous, nous rechercher, n'est-ce pas ? Et chercher Jésus-Christ, parce que nous allons les orienter vers Jésus-Christ, parce que nous sommes devenus ces choses pour le monde. Mais c'est ça dont il est question, c'est de pouvoir être en communion. Vous savez que la bien-aimée encore dans le livre du Cantique des Cantiques, elle disait, le livre des Cantiques des Cantiques, c'est un chant d'amour entre une femme et un homme. Et la bien-aimée ou le bien-aimé, la bien-aimée a dit, mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. On le chante ce chant, n'est-ce pas? Mais c'est extraordinaire. C'est pas le bien-aimé est à moi, c'est le bien-aimé est à moi et je suis à lui. Est-ce que la justice est à vous? Est-ce que vous êtes à la justice? Est-ce que vous ne faites plus que un, de sorte à ce que vous soyez devenu justice de Dieu sur la terre? Est-ce que c'est ça que vous avez recherché? Pas d'avoir les choses. Combien de gens dans les églises recherchent les choses que Dieu peut donner? Il y a des églises qui insistent lourdement sur les dons de l'Esprit. Ils ont raison d'insister sur les dons de l'Esprit, mais pas lourdement. Parce que le danger, c'est de chercher les dons de l'Esprit, mais de ne pas chercher l'Esprit de Dieu. Ils veulent recevoir ce que Dieu donne. Ils veulent recevoir le Saint-Esprit, mais ils ne veulent pas être nécessairement à l'Esprit de Dieu. Mais est-ce que ce matin, on cherche Dieu parce qu'on veut le recevoir, mais aussi on veut se donner à lui? On veut ne faire plus qu'une seule personne avec Jésus-Christ. Et c'est ça la puissance qui libère. C'est ça la liberté. Les hommes et les femmes qui sont libres sont des gens qui se sont donnés à Christ complètement, qui ont donné leur vie totalement parce qu'ils n'ont plus la charge de lutter contre eux-mêmes, de lutter contre leur misère. Ils ont pu connaître la personne de Christ et faire une seule personne avec Christ. Oh, c'est choquant. Le monde ne comprend pas ça. Comment c'est possible d'être un avec Jésus-Christ ou avec Dieu? Eh bien, c'est ça le message de l'Évangile. C'est ce miracle-là qui libère les hommes et les femmes. Mais ça suppose de fuir ce qui pourrait nous posséder par ailleurs, n'est-ce pas? Parce que si la justice veut nous posséder dans le sens positif du terme, c'est-à-dire si elle veut nous avoir, elle veut qu'on soit à elle. Et si nous voulons la justice de Dieu, eh bien, il y a aussi d'autres puissances. C'est pour ça que l'apôtre Paul devait dire à Timothée, fuis ces autres puissances, fuis ce qui va t'empêcher de rechercher. Et si vous avez dans votre environnement, je ne parle pas des personnes, mais des situations qui vous empêche de rechercher, qui vous empêche d'aspirer à Dieu, de chercher à pouvoir appartenir à Dieu, à toute sa plénitude, à toute cette victoire qu'il veut vous donner, eh bien, il faut abandonner ces choses, il faut fuir, il faut renoncer pour pouvoir être disponible, n'est-ce pas? Toute autre alliance empêche cette alliance dont il est question d'ailleurs dans Ésaïe 55, si vous lisez et relisez le chapitre entièrement. Et j'aimerais, pour illustrer ce que je viens de dire, prendre trois situations dans l'évangile de Jean. Si vous ne me connaissez pas encore, eh bien vous saurez pas que je vais souvent faire référence à l'évangile de Jean. Mais l'évangile de Jean nous donne trois fois, trois instances, peut-être il y en a plus, mais j'en ai repéré trois, où Jésus dit « Qui cherches-tu ? Qui cherchez-vous ? » Et la première instance où il en est question, c'est dans le chapitre 1, où il est dit au verset, on va prendre à partir du verset 35, « Le lendemain, Jean était encore là, donc il s'agit de Jean-Baptiste, pas Jean, l'apôtre, avec deux de ses disciples, ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et y suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous ? Que cherchez-vous ? » Jésus savait ce qu'ils cherchaient, mais il voulait entendre de leur bouche. Et ce matin, c'est important de pouvoir rentrer chez vous, de pouvoir dire au Seigneur « Je te cherche ». C'est toi que je cherche, c'est toi que je veux connaître, c'est toi que je veux découvrir, c'est toi que je veux avoir pour moi, pour ma vie, mais je veux que tu puisses avoir ma vie aussi, pour que nous ne fassions plus qu'une personne. Et ces paroles sont nécessaires, c'est de prononcer avec puissance, avec autorité et avec vérité ces paroles. Mais c'est ça que Jésus voulait les entendre dire. Et vous remarquez l'attitude de Jean-Baptiste, qui a dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Parce qu'il n'a pas essayé de retenir ses disciples. Il n'a pas essayé de retenir ceux qui le suivaient en disant « Ah, ça en fait deux de moins, et en plus c'était deux bons ceux-là. » Quelquefois, on est préoccupé à ce que les gens puissent faire partie d'un cercle absolument, d'une église. Et on est troublé s'ils commencent à suivre Jésus-Christ un peu trop, parce qu'on a peur qu'ils vont quitter l'église. Mais ce qu'on doit chercher, comme Jean-Baptiste, c'est que chacun puisse suivre Jésus. Et ces hommes ont commencé à suivre Jésus. Et dedans, il y avait André. Un des deux s'appelait André. Et André, c'était le frère de Pierre, de Simon-Pierre. Et je suppose que du temps où André suivait Jean-Baptiste, il avait raconté à la maison, il avait raconté à Pierre, « Tu devrais suivre Jean-Baptiste, c'est vraiment un homme de Dieu, c'est vraiment un prophète, il annonce des choses spectaculaires. » Et je peux imaginer Pierre dire, « Oui, oui, ça va, oui, c'est ton affaire. Mais moi, j'ai mon travail. » Je peux pas faire comme toi, André. Toi, tu n'as pas de travail. Je ne sais pas s'il avait pas de travail ou pas. Mais il y a quelque chose qui a fasciné André quand il a vu Jésus. Sur la simple déclaration de la parole de Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu. Cette parole et le fait d'avoir regardé Jésus a fait que chez André, il y a eu ce désir de chercher Jésus. Ce désir de suivre Jésus. Il y a quelque chose dans la parole de Dieu, dans l'évangile que vous devez découvrir, que je dois découvrir. Il y a quelque chose dans la personne de Jésus que l'on doit découvrir, que je dois découvrir, qui fait que lorsqu'on le rencontre, il y a un bouleversement qui fait qu'on veut le suivre et qu'on dit « Seigneur, je veux te suivre, je veux être avec toi ». Malheureusement, les gens se convertissent à une église évangélique, se convertissent à un mouvement de prière, à une communauté quelconque, et ne se convertissent pas à Jésus-Christ. C'est le drame probablement parce qu'ils n'ont pas été fascinés par Jésus-Christ, parce qu'ils n'ont pas été pris, ils n'ont pas été captivés. Et ici, André, donc, il a rencontré Jésus, il a commencé à le suivre, et il nous est dit qu'il a amené son frère Pierre tout de suite, son frère Simon. Probablement, Simon-Pierre avait observé le visage et la vie de son frère André. Et puis, il a vu que André était passionné par ce que faisait Jean-Baptiste. Mais il n'y avait pas quelque chose de profond qui s'était réalisé. Tandis que quand André a rencontré Jésus, il y avait quelque chose qui l'avait transformé. Il y avait quelque chose qui avait rendu ses paroles convaincantes. Et immédiatement, Simon-Pierre a dit, il faut que je le rencontre moi aussi. Et c'est ça qui est l'évangélisation. C'est ça qui propage l'évangile. C'est quand les gens, en vous rencontrant, rencontrent Jésus-Christ. C'est lorsqu'ils voient en vous Jésus-Christ. Et donc, si vous dites simplement quelques paroles, eh bien, ça suffit pour les convaincre qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas reçu encore. Donc, quand Jésus leur a dit « Que cherchez-vous ?» ils ont dit « Quelque chose de bizarre. » Ils ont dit « Où habites-tu ? Où demeures-tu ?» Et « demeurer », c'est un terme qui est très précieux à Jean, l'apôtre Jean. Il l'utilise souvent dans son évangile et dans sa première épître. « Où demeures-tu ? » Mais voilà la question, n'est-ce pas, quand on a rencontré Jésus. « Où est-ce que tu demeures ? » Parce que je veux demeurer avec toi. Je ne connais pas de gens qui sont amoureux, un homme et une femme qui sont amoureux et qui ne désirent pas un jour pouvoir demeurer ensemble. On n'a pas besoin de dire, bon, si tu es amoureux, il faudra considérer un jour d'habiter ensemble avec cette personne. C'est pour ça que le mariage est une évidence, n'est-ce pas ? À partir du moment où des gens sont amoureux l'un de l'autre. Ils y songent. Et c'est le désir qui doit être dans le cœur normal, c'est normal dans la rencontre quand on cherche Jésus. Eh bien, c'est de pouvoir demeurer là où il demeure. Il a dit dans Jean chapitre 14, « Je vais préparer le chemin afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Il a dit ça à ses disciples. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et voilà l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Jésus, c'est qu'il nous prépare une place avec lui, en lui. Et si vous lisez Jean chapitre 15, ce que je vous encourage à faire, nous a parlé de Jean chapitre 13 tout à l'heure, et naturellement, comme on dit souvent, c'est un forfait, vous avez Jean chapitre 13, 14, 15, 16 et 17 qu'il faut lire ensemble. Parce que ça va ensemble. On ne dissocie pas ce qui va ensemble. C'est important que les choses aillent ensemble. Et donc, dans ce chapitre 15, il est question de Jésus qui parle de « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » N'est-ce pas ? Ensuite, il dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Oh, les gens voient ça, demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Ils disent, oh, c'est génial. Parce que c'est toujours dans l'avoir, n'est-ce pas ? C'est recevoir, je veux recevoir, mais ce n'est pas je veux me donner. Or, l'évangile, c'est effectivement recevoir. C'est recevoir Jésus-Christ, c'est recevoir sa parole, c'est recevoir sa puissance dans nos vies qui agit. Mais c'est aussi se donner totalement. Et c'est seulement dans cet échange parfait qu'on peut connaître ce que Dieu dit. Et vous remarquez qu'il est dit, « Si mes paroles demeurent en vous, demandez et vous recevrez. » Ça veut dire que ce que vous demandez sont les paroles de Christ et elles s'accompliront. Mais il est question de demeurer à plusieurs reprises dans ce chapitre 15, de demeurer en lui et il demeure en nous. Voilà la question que Jésus posait à ses deux disciples de Jean. « Que cherchez-vous ? Qui cherchez-vous ? » Et ils ont répondu « Où demeures-tu ? » Parce qu'ils voulaient demeurer là où Jésus demeurait. Est-ce que ce matin vous êtes en mesure de répondre ça, « Seigneur, où demeures-tu ? » Parce que je veux demeurer dans ta présence, parce que je veux être là où tu es, être avec toi en tout temps, en toutes circonstances, même à la maison, même au travail, même dans les circonstances pénibles de la vie. La deuxième fois, dans l'évangile de Jean, où il est question de Jésus qui pose la question « Qui cherches-tu ?» On la trouve dans le chapitre 18, au verset 7. Et dans le contexte, il s'agit de Judas qui a créé une cohorte avec des religieux, n'est-ce pas, et des huissiers qui viennent pour arrêter Jésus-Christ afin de pouvoir le crucifier. Et donc, ils ont réalisé cette émeute, cette cohorte, pour venir chercher Jésus. Il nous est dit dans le livre d'Ésaïe qu'il était humble et doux. Il n'avait pas d'armes, il n'avait pas de force physique, il n'avait pas de puissance. Mais il fallait une cohorte, il fallait des hommes en quantité pour venir l'arrêter. Et c'est visible que ces hommes, il est visible que ces hommes avaient peur, parce que Jésus leur dit « Qui cherchez-vous ? Qui cherchez-vous ? » Et il dit « Jésus de Nazareth ». Et il a dit « C'est moi ». Et quand il a dit « C'est moi », ces hommes ont reculé, ils sont tombés en reculant. Je ne sais pas si c'était miraculeux ou si c'était simplement qu'ils ont reculé, et en reculant ils se sont marchés les uns sur les autres, mais ils sont tombés. C'est évident qu'ils avaient peur. Vous savez que, si vous lisez dans le livre des Actes, eh bien Hérode, lorsqu'il a fait arrêter Pierre, ce pêcheur, c'était son métier, la pêche, qui ne devait vraiment pas être quelqu'un de redoutable physiquement, eh bien il était gardé par 4 escouades de 4 soldats. Ça fait 16 soldats pour garder un homme. Et il était mis dans une prison et on avait mis des chaînes à ses pieds au cas où il se sauverait, n'est-ce pas? Pourquoi Hérode a fait ça? Parce que Hérode avait peur de cet homme. Parce qu'il savait ce que Dieu pouvait faire. Et voilà, ce sont des gens comme Hérode, ce sont des gens comme Judas, ce sont des gens comme ceux qui voulaient arrêter Jésus, qui au fond savaient qu'il pouvait y avoir quelque chose de terrible qui leur arrive. L'Église, quand Pierre était en prison, ne cessait de faire monter à Dieu des prières en faveur de Pierre. Mais quand Rode a dit, il est à la porte, ils ont dit « t'es folle », ce qui voulait dire « Dieu n'exauce pas les prières », n'est-ce pas? Eux, ils ne croyaient pas que Dieu pouvait intervenir pour Pierre. Mais Rode le savait. C'est pour ça qu'il a mis beaucoup de monde, mais ça n'a servi à rien. Mais ces hommes-là cherchaient Jésus, cherchaient pour le mettre à mort. Ils cherchaient à voir Jésus. Et à leur grande satisfaction, ils avaient l'impression d'avoir Jésus en leur possession. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que s'ils avaient Jésus entre les mains, s'ils avaient réussi à arrêter Jésus de Nazareth, eh bien Jésus ne les avait pas pour lui. Ils n'étaient pas à Jésus. Et voyez, on peut avoir Jésus, on peut avoir une église où on parle de Jésus, on peut se revendiquer de Jésus, on peut dire « J'ai Jésus avec moi ». Mais la question, c'est est-ce que Jésus nous a, si vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce que nous appartenons à Jésus? Est-ce qu'il y a cet échange réciproque? Ces hommes-là pouvaient dire « J'ai Jésus » comme beaucoup de religieux. Maintenant, on se réclame de Jésus. Mais la question, c'est est-ce que Jésus nous a? Est-ce que nous appartenons à Jésus? Si vous lisez le Sermon sur la montagne, là aussi, ça ne se lit jamais en découpé. C'est Matthieu 5, 6 et 7. Eh bien, vous allez voir qu'il parle de la fin des temps. Et il dit que beaucoup viendront et diront « Mais j'ai prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. » Jésus leur dira simplement « Je ne vous connais pas. Retirez-vous, ouvriers d'iniquité. Je ne vous connais pas. Vous ne m'avez jamais appartenu. Peut-être je vous ai appartenu. Peut-être que vous avez fait des choses en mon nom parce que vous aviez Jésus avec moi, avec vous. Vous me preniez par la main Vous m'ameniez dans des situations et vous disiez au nom de Jésus. Et je me demande, quelquefois, si dans nos vies, nous avons Jésus et seulement ça, mais que la réciproque n'est pas vraie. Nous ne sommes pas en Jésus, nous n'appartenons pas à Jésus, parce que nous n'avons pas donné notre vie. Nous ne sommes pas donnés, nous ne sommes pas offerts, comme disait l'apôtre Paul dans Romains chapitre 12, comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, en disant « Seigneur, je te donne tout ». C'est ce qu'on déclare quand on se fait baptiser. Mais malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, ça a été un mensonge. En disant « je me donne entièrement ». Et réellement, ça n'était pas vrai. Vous savez que Ananias et Saphira ont dit « on a tout donné ». Et ils n'avaient pas tout donné. Et vous savez le jugement qui leur est tombé dessus. Et malheureusement, c'est souvent le cas qu'on dit « j'ai tout donné au Seigneur ». J'ai donné ma vie au Seigneur. C'est même devenu une expression évangélique. Donner sa vie au Seigneur. Et on ne pèse pas ce que ça veut dire. C'est peut-être simplement qu'on a accepté Jésus, qu'on a voulu être avec, qu'il soit avec nous, mais on ne voulait pas être avec lui. Donc ces gens-là, Jésus leur a dit « Qui cherchez-vous ? » Ils ont dit « Jésus de Nazareth ». Oh, quelle belle réponse ! Voilà des hommes qui cherchaient Jésus, mais ils cherchaient pour l'avoir, de sorte à ce qu'ils puissent être liés. Et puis ils avaient réussi quelque chose de spectaculaire, mais ils ne savaient pas qu'en faisant ça, ils accomplissaient le plan de salut de Dieu. Lénine, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, Lénine a pensé supprimer de l'URSS la notion même de Dieu. Et c'est très simple à faire. Il suffit de très sévèrement punir les parents qui enseignent cela à leurs enfants. De retirer les enfants qui sont dans des familles chrétiennes pour qu'ils n'entendent pas le nom de Jésus. Et Lénine a dit juste une histoire de temps. Et puis après quelques décennies comme ça, eh bien on n'entendra plus parler de Jésus. Ceux qui croyaient en Jésus seront morts et il n'y aura plus. Et il a tellement bien réussi son travail qu'il a fondé une église. Il a créé sans le vouloir, bien sûr, une église très solide, où il y avait des hommes et des femmes qui se donnaient au Seigneur et qui étaient prêts à payer de leur vie pour leur foi en Jésus-Christ. Et là, c'est la même chose pour ces gens. Ils avaient Jésus avec eux, mais ils n'appartenaient pas à Jésus. Vous savez que Jésus a dit dans la prière sacerdotale, et d'ailleurs il a dit à ces hommes, il a dit « Laissez partir ceux-ci » en pointant ses disciples. Et il nous est dit dans la parole que c'est en réponse à ce qu'il avait dit dans Jean 17, la prière sacerdotale. Il a dit « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. » Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Ça veut dire que ceux qui sont à Jésus, Jésus ne les perd pas, n'est-ce pas ? Mais le Père les a donnés. Est-ce que vous pouvez dire « Le Père, Dieu m'a donné à Jésus-Christ. J'appartiens à Jésus-Christ. Ce matin, je sais que j'appartiens. Et je sais qu'il m'appartient. Mais pas seulement qu'il m'appartient, je l'appartiens aussi. » Et cette démonstration véritable de ce que c'est cet échange, cette relation d'appartenance réciproque, eh bien, vous le trouvez dans Jean chapitre 20, au verset 15, il s'agit de Marie, Marie de Magdala, qui va au sépulcre. Elle va parce que Jésus était crucifié, il a été mis dans un tombeau. Et elle pleure, elle est désespérée, parce qu'elle a perdu son Seigneur. Et c'est exactement comme la femme dans le Cantique des Cantiques, qui est perdue, qui est désespérée parce que son bien-aimé s'en est allé. Et ne peut pas supporter le fait qu'il ait pu être fâché, qu'il ait pu être déçu d'elle, que la relation ait pu être brisée. Voilà des gens qui s'appartiennent réciproquement. Des gens qui ne peuvent pas supporter que la relation soit brisée. Et ici, il est question de cette femme qui est au tombeau. Et il y a un homme, en fait c'est Jésus, elle ne le reconnaît pas tout de suite. qui lui dit, femme, au verset 15, donc Jean 20, 15, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Qui cherches-tu? Là aussi, Jésus n'avait pas besoin de lui poser cette question, il savait très bien qui elle cherchait. Mais voilà sa réponse, et sa réponse, elle est probablement pour nous. Et c'est probablement pour ça que Jésus lui a posé la question, pour nous interpeller. Parce que voilà la démonstration d'une réponse, d'une femme qui a été libérée. Il nous est dit qu'elle a été libérée des démons qui la troublaient. Voilà la réponse d'une femme. Elle répond qui a été libérée. Donc une femme qui a été libérée. Seigneur, monsieur, ça veut dire, hein, parce que c'était, elle ne savait pas que c'était Jésus. Si c'est toi qui l'a emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Comment cette femme pouvait-elle envisager de prendre le corps mort de Jésus? Comment une femme pouvait envisager de prendre chez elle un mort? Oui, elle avait perdu momentanément la raison. Mais c'est ça que Dieu veut, parce que l'amour, l'attachement fait qu'on dit des choses bizarres. Le problème de nos prières, de nos manifestations à Dieu, c'est qu'elles sont extrêmement sages, extrêmement raisonnées. Mais on a besoin d'avoir de la folie. Dans l'expression de l'amour, il y a de la folie qui s'exprime. Et cette femme a dit n'importe quoi. Mais c'était un témoignage d'amour. Et Jésus lui a dit simplement un mot, il a dit Marie. Et elle a reconnu son maître. Elle a reconnu que ce qu'elle croyait était brisé à tout jamais. Elle croyait que cette relation à laquelle elle tenait tant, eh bien, était finie. Mais elle a trouvé qu'il était ressuscité. Et ce matin, Jésus nous dit aussi, qui cherches-tu? Que cherches-tu? Et quelle est notre réponse ce matin? Qu'est-ce qu'on va répondre au Seigneur? Est-ce qu'on cherche à l'avoir pour pouvoir avoir de la puissance, pour pouvoir lui demander ce qu'on veut? Ou est-ce qu'on va chercher à lui appartenir et être à lui? Je vais prier pour terminer. Seigneur, ta parole est puissante et Seigneur, si tu dis « Qui cherches-tu ?» c'est parce que tu nous cherches, parce que tu nous aimes. Et Seigneur, il est dit que tu es venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et c'est un merveilleux message d'espérance, un merveilleux message d'assurance, c'est que, Seigneur, si nous sommes perdus ce matin, Seigneur, eh bien, tu es venu pour nous, tu es venu nous chercher, et Seigneur, nous voulons nous laisser trouver, nous voulons venir vers toi et dire, Seigneur, je te cherche, c'est toi que je désire être à toi, et je désire que tu sois à moi. Et que, Seigneur, cette œuvre se réalise réellement dans nos vies, les uns et les autres, pour que, Seigneur, en tant qu'Église, ça devienne une réalité manifeste. Amen.